de retrouver Thomas Cluzel pour le journal. Thomas, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous commencerons ce journal donc par la rentrée des classes ce matin. L'occasion avec Hakim Kasmi de nous intéresser à certaines des nouveautés qui marquent cette rentrée 2018.
Et puis la rentrée des classes, ce sera également le thème avec votre invité.
Oui, Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU.
La rentrée politique cette fois-ci, encore assez largement dominée par les interrogations sur le remplacement de Nicolas Hulot, mais aussi celle sur l'impôt à la source.
Et sur ce dernier point, justement avec Stéphane Robert, nous nous demanderons en quoi les bugs techniques susceptibles d'hypothéquer cette réforme témoigne surtout d'un énorme bug de communication.
Toujours en France, Thomas Cluzel, un nouveau procès de ce que l'on appelle la fraude à la taxe carbone s'ouvre aujourd'hui.
Oui, 16 prévenus vont être jugés pour répondre d'une escroquerie évaluée à 70 millions d'euros au détriment du fisc français. Nous écouterons sur ce point l'analyse de notre confrère de Mediapart, Fabrice Arfi. Et puis avec Tara Schlegel, nous détaillerons les mesures préconisées par la mission sur l'amélioration de l'information sur le médicament, mission qui doit remettre aujourd'hui son rapport à la ministre de la Santé.
Enfin, à l'étranger, Thomas Cluzel.
Direction l'Argentine. Tout d'abord, le gouvernement doit annoncer aujourd'hui un plan d'austérité douloureux. L'Allemagne, où la justice a rendu ce matin un verdict très attendu contre un demandeur d'asile. Et enfin, la Birmanie, après que deux journalistes de l'agence Reuters ont été condamnés ce matin à 7 ans de prison. Et puis, à 12h55, Olivier Gesbert, ce sera la grande table des idées au menu aujourd'hui.
Nos invités vont revenir sur 50 ans de bouleversement sur tous les plans politiques, économiques, mais également sociétal. L'économiste Daniel Cohen et le cinéaste Éric Rochant. On va tenter de répondre ensemble à la question : la société digitale peut-elle bâtir un monde meilleur ?
Merci Olivia et à tout à l'heure. Un concert de braillements, de cris et de pleurs enlacés ou quand la cloche de l'école sonne définitivement la fin des vacances. Ce matin, ils étaient donc des millions d'élèves à franchir la lourde porte de leur établissement. Une rentrée scolaire que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a voulu placer sous le signe du bonheur, de la joie et de la créativité. Et on aurait pu également ajouter sous le signe de l'évaluation. Le ministère va en effet instaurer de nouvelles évaluations nationales standardisées, en particulier en français et en maths pour les élèves de CP, de CE1 et de seconde. Ce que les plus sceptiques traduisent d'ailleurs généralement plutôt par des tests de performance dont ils redoutent qu'ils puissent à terme cacher la volonté du gouvernement de mettre en concurrence les établissements. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors cette idée que le monde scolaire pourrait en somme être amarré au dogme de la compétition, cher notamment au monde de l'entreprise, s'illustre également à travers une autre nouveauté cette année. La possibilité pour les chefs d'établissement de recruter eux-mêmes leurs professeurs, un nouveau mécanisme qui pourrait concerner jusqu'à 10% des recrutements.
Oui, effectivement, mais l'idée n'est pas nouvelle. Elle date de la période où Nicolas Sarkozy était président de la République, période durant laquelle Jean-Michel Blanquer a été recteur de l'Académie de Créteil, mais surtout directeur général de l'enseignement scolaire, traduisait, eh bien, numéro 2 du ministère de l'Éducation. Concrètement, Jean-Michel Blanquer, eh bien, veut donner plus de liberté aux chefs d'établissement qui pourront choisir eux-mêmes leurs enseignants du primaire au lycée et pourront donc choisir le profil recherché qu'ils souhaiteront. Pour Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, c'est le syndicat principal des proviseurs, et bien, ce dispositif peut valoir dans certains cas, mais à condition d'être bien encadré.
Je ne suis pas certain que tous les établissements, en fonction de leur filière d'enseignement, de leur spécificité, aient besoin ici ou là de postes à profil. Certains en ont besoin, je pense en particulier aux lycées technologiques, aux lycées professionnels, les établissements qui ont des BTS. On peut imaginer que dans certains cas, il y ait des profils nécessaires parce que la spécialité du poste l'appelle. Maintenant, est-il nécessaire d'avoir un poste à profil pour recruter un prof de lettres modernes dans un collège? C'est pas absolument certain. De toute façon, aujourd'hui, il est certain que le chef d'établissement n'est pas l'employeur. Il n'a pas vocation à signer le contrat de recrutement d'un enseignant. Donc, il ne peut pas le recruter au sens premier du terme où on l'entendrait, par exemple, dans le privé.
Recruter dans le privé, c'est ce que craignent les chefs d'établissement et les enseignants. D'autant que Jean-Michel Blanquer l'a encore rappelé la semaine dernière, une partie de la prime qui sera donné aux enseignants qui sont en zone d'éducation prioritaire, en REP+, eh bien, se fera au mérite une politique managériale qui ressemble étonnamment à celle des entreprises privées.
Alors, pour parler avec nous de cette rentrée, invité de ce journal aujourd'hui, Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU. Bonjour madame.
Bonjour.
Hakim Kasmi évoquait à l'instant la possibilité qu'à terme 10% des nouveaux recrutements soient décidés par les chefs d'établissement eux-mêmes. S'agissant de recrutement, justement, tout le monde se réjouit ce matin, et a raison, du dédoublement des classes de primaire en zone prioritaire. Petite question toutefois, ce dédoublement s'est-il fait grâce à des recrutements ou au détriment des autres classes ?
Bien malheureusement, il se fait beaucoup au détriment des autres classes puisqu'il n'y a pas eu suffisamment de postes créés. Il faudrait plus de 5000 postes pour permettre de dédoubler les CP-CE1. On est à 3000 et quelques postes créés. Donc évidemment, on prend sur des postes de remplacement, on prend sur nos fameux postes de plus de maîtres que de classe, qui est un dispositif, vous savez, qui a été mis en classe par le précédent gouvernement, qui permet un travail différent en classe et qui n'a pas celui-ci eu le temps d'être évalué. Donc évidemment, on est dans cette situation de redéploiement pour une mesure qui certes, évidemment, nous intéresse, baisser les effectifs dans les classes, c'est une revendication syndicale. Donc il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Et moi, j'attire quand même l'attention du ministre sur il est important de donner de bonnes conditions d'apprentissage aux élèves de CPCE1, mais cela ne suffira pas et ça ne peut pas se faire non plus au détriment d'effectifs qui remontent en maternelle, par exemple, qui sont importants en collège et en lycée, parce que la réussite des élèves, elle se joue tout au long de leur scolarité. Donc la question des effectifs et donc des recrutements que nous posons pour la FSU, elle est importante à tous les niveaux d'enseignement et elle est loin d'être réglée à cette rentrée, même si le ministre se réjouit à grand renfort de sa réforme de dédoublement.
Alors, Bernadette Goison,
une question d'Hakim Kasmi.
Il faut rappeler que la France, eh bien, fait partie des pays qui a les effectifs les plus importants, que ce soit au primaire ou dans le secondaire. Aujourd'hui, on le voit, pour mettre en place le dédoublement, on aura certes des classes de 12 ou de 14, mais à côté, on aura de 25 à 30 élèves, voire 40 au lycée. Le SNUPP disait la semaine dernière que, avec 7000 enseignants, on pourrait avoir des classes dans le primaire de 20 élèves. Du coup, ça permettrait bien, aussi bien aux bons élèves qu'aux moins bons, de pouvoir suivre et d'être dans des conditions acceptables. Qu'en pensez-vous?
Oui, non, mais évidemment, je viens de le dire, on a un vrai sujet pour permettre à abaisser les effectifs à tous les niveaux d'enseignement et les chiffres donnés par le SNUPP, par le SNES à cette rentrée éclairent cela. Mais il faut pas oublier que le gouvernement fait aussi cette rentrée, et ça il le dit moins, dans un contexte budgétaire de baisse des dépenses publiques. Et que l'air du temps à cette rentrée n'est pas à créer des postes en nombre suffisant. Elle est à réduire le nombre d'emplois et donc à faire des coûts, à faire un coût sur le CPCE1, on met le focus et évidemment on s'attire la sympathie de tout le monde, des enseignants comme des familles, parce que ça fait tellement longtemps que nous attendons une baisse des effectifs que chiche, faisons-le là où c'est possible, mais on laisse le voile sur les autres niveaux d'enseignement. Au collège, il y a 26 000 élèves en plus à cette rentrée, il n'y a pas de création d'emplois, donc évidemment que les effectifs dans les classes de 6e à la 3e vont être importants. Donc ce qu'il faut faire pour aller au-delà d'une opération médiatique, c'est recruter en nombre suffisant.
Petite précision, il faut rappeler que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche reste sanctuarisé. C'est celui
Sanctuarisé, certes, c'est le maître mot, mais sanctuarisé ne veut pas dire que pour l'instant, il a été prévu au budget des créations de postes en nombre suffisant. Et le budget 2019, nous en attendons bien évidemment le détail, je ne suis pas certaine qu'il réponde à cela. Donc on a un vrai sujet de recrutement. Dans des métiers où on a du mal à recruter, on a un vrai problème d'attractivité. Nous savons qu'il y a des concours particulièrement sur des disciplines comme par exemple les langues ou les mathématiques dans le second degré. On n'arrive plus à recruter en nombre suffisant. Donc nous, on a posé depuis l'arrivée de ce ministre un dossier sur la table, celui de recrutement et pré-recrutement, c'est-à-dire recruter, je l'ai dit, en nombre suffisant, ce qui a évidemment une implication budgétaire. Aller chercher aussi des pré-recrutements, c'est-à-dire aller chercher des étudiants intéressés par les métiers de l'éducation et les amener à se présenter sur ce concours. Ça veut dire aussi des moyens pour eux financiers pour faire ces études, faire leurs études et passer ces concours. Et ça veut dire de la formation. Parce que, à l'inverse des postes à profil que vous évoquiez précédemment, nous, on est pour évidemment des recrutements qualifiés et sur des recrutements, évidemment, qui soient cadrés au niveau national et non pas sur des postes à profil.
Alors, Bernadette Goison, une question importante, ça concerne l'évaluation. On en parlait avec le recrutement. Aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer l'a confirmé encore il y a quelques jours. Il veut poursuivre, eh bien, le sillon de réforme engagé. Est-ce que cela vous inquiète par rapport au dialogue social? On le voit récemment, que ce soit les ministères, l'éducation. On veut passer en force sur beaucoup de dossiers.
Oui, à l'éducation comme à la fonction publique, c'est la méthode Macron, hein, si je puis dire, beaucoup de réformes. Alors Jean-Michel Blanquer avait promis en arrivant dans ce ministère que lui ne ferait pas de grandes réformes, qu'il ne reviendrait pas sur ce qui a été fait. Je crois qu'il a ouvert à peu près toutes les boîtes là de la maternelle à l'université, à un train évidemment très important et sans la concertation nécessaire. On l'a vu puisque le dernier Conseil supérieur d'éducation au mois de juillet a été boycotté par l'ensemble des organisations syndicales et des parents d'élèves, parce que ces programmes n'ont pas été discutés avec ceux qui vont les mettre en place, par exemple les enseignants. C'est le cas pour des orientations aujourd'hui sur certaines disciplines à cette rentrée pour les classes de seconde. Donc moi j'alerte le ministre, et ce que nous allons faire pour la FSU au quotidien avec les enseignants et tous les personnels, c'est bien sûr de suivre ces sujets et de nous inviter à toutes ces discussions. On ne réforme pas déjà sans les personnels, et il faut faire très attention à ne pas perdre de vue les objectifs. Vous évoquiez l'évaluation. L'évaluation est un sujet sérieux. La question, c'est que faisons-nous de ces évaluations? Comment déjà nous les faisons passer aux élèves? Qu'allons-nous faire de ces résultats? Et en quoi nous aurons les moyens de remédier à ce qui apparaîtra dans ces évaluations comme des obstacles à la réussite des élèves? Et ça, c'est là-dessus aussi que nous souhaitons qu'il y ait un réel dialogue social avec le ministre. C'est pas vraiment tout à fait le cas à cette rentrée.
Merci beaucoup, Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, d'être venue avec nous aujourd'hui en studio. Et merci à Hakim Kasmi du service économique. Alors, depuis une semaine, le travail de la classe s'agissant du gouvernement a été quelque peu perturbé. Le président Emmanuel Macron devrait finalement sonner la cloche demain, d'une part s'agissant des interrogations sur le remplacement de Nicolas Hulot et d'autre part sur les questions liées à l'impôt à la source. Alors, sur ce dernier point, après les révélations du Parisien hier, sur une note interne du fisc faisant état de centaines de milliers de bugs lors de la phase de test, l'administration fiscale a répondu que les erreurs identifiées concernaient moins de 1% des contribuables et que de toute façon tout pourra être résolu avant le lancement de la réforme. C'est également peu ou prou d'ailleurs ce qu'a défendu le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
On a quand même le sentiment que les bugs techniques susceptibles d'hypothéquer donc cette réforme témoignent surtout d'un énorme bug de communication.
Oui, il y a comme un flottement difficile à comprendre et tout un tas de questions qui en découlent pas forcément très rassurantes. Parce qu'encore une fois, comme en fin de semaine dernière, des informations contradictoires se sont succédées au cours du week-end. Il y a eu le contenu de cette note publiée par Le Parisien aujourd'hui en France, une note interne au service de Bercy qui fait état de bugs dans les simulations effectuées. Par exemple, on vous prélève plusieurs fois, ou bien il y a des erreurs en raison du fait que vous avez un ou plusieurs homonymes. Certains mois, il peut y avoir énormément de bugs, jusqu'à 350 000, expliquait hier Le Parisien, et d'autres mois, il y en a très peu. Dans ces conditions, il faut tout arrêter, estiment certains syndicats. Mais le ministre des Comptes Publics, lui, s'est une nouvelle fois voulu rassurant. S'il y a des bugs, ça concerne 0,1% des contribuables, a répondu Gérald Darmanin. Il n'y a donc pas de quoi s'alarmer. Le ministre qui a cependant concédé que les Français n'y étaient peut-être pas prêts psychologiquement. Son collègue de l'économie, Bruno Le Maire, explique quant à lui qu'il souhaite qu'on maintienne le prélèvement à la source au 1er janvier, si on a toutes les garanties nécessaires, mais que la décision politique appartient à Emmanuel Macron. Et il semble bien que ce sont des considérations politiques qui conduisent le président à tergiverser. On sait que les chefs d'entreprise n'y sont pas favorables. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, a redit ce matin son opposition au fait que les entreprises collecte l'impôt. Il y a aussi un calendrier politique pas forcément propice, avec des prévisions de croissance à la baisse, des crispations à prévoir avec la réforme des retraites programmée l'année prochaine et les élections européennes qui se profilent au mois de mai 2019. Il semblerait donc que ce soit plus politiquement que techniquement que le président de la République s'interroge. C'est peut-être également pour Emmanuel Macron une manière de reprendre la main sur son agenda. On avait le sentiment depuis quelques semaines que beaucoup de choses lui échappaient. L'affaire Benalla, la réforme constitutionnelle qu'il a été obligé de reporter, la démission de Nicolas Hulot. Avec ce diagnostic qu'il a dressé, faisant état de problèmes sur le prélèvement à la source, et le fait qu'il se donne une échéance pour prendre une décision politique, il reprend la main et redevient ce qu'il avait semblé cesser d'être ces derniers temps, le maître des horloges.
Merci Stéphane Robert. Fisc toujours et encore avec cette fois-ci un nouveau procès autour de la fraude à la taxe carbone qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. 16 prévenus vont être jugés pour répondre d'une escroquerie évaluée à 70 millions d'euros au détriment du fisc français. Alors ce n'est que l'un des volets de cette gigantesque fraude qui se chiffre au total à plus d'1,6 milliard d'euros. Les enquêtes judiciaires ont d'ores et déjà débouché sur 5 procès d'envergure. sûr, mais ce que certains appellent le casse du siècle comporte aussi un autre volet qui rejoint directement le crime organisé. C'est tout le thème du livre Enquête que publie Fabrice Arfi, notre confrère de Mediapart, sous le titre D'argent et de sang. Fabrice Arfi, joint par téléphone par Florence Turme.
Du point de vue financier, l'escroquerie du carbone, c'est la rencontre des enfants de Belleville, quartier populaire du 20e arrondissement de Paris, avec notamment un blouson doré du 16e. Leur union avec d'autres va donner l'escroquerie. Et sur le dos de l'escroquerie et de son argent, on a vu petit à petit se greffer jusqu'à créer une sorte de Frankenstein criminel, des réseaux tout à fait différents et qui fonctionnaient en quelque sorte comme des silos. D'un côté, il y avait les gitans, de l'autre il y avait les gens des banlieues, puis il y avait les corsos marseillais, les mafias liées à des pays étrangers, par exemple la Russie, Israël, l'Italie. Le crime organisé s'est emparé de l'histoire puisqu'on en est aujourd'hui à plusieurs assassinats, 4 ou 5 selon les enquêtes, qui sont directement liés aux acteurs, à l'argent et aux intrigues des quotas carbone.
Quand vous parlez de la matrice du nouveau crime français, ça laisse à penser que même si l'escroquerie à la taxe carbone est enrayée aujourd'hui, les choses vont continuer.
Vous avez raison de dire que l'escroquerie, elle est enrayée, puisqu'on en est à une quinzaine de procédures judiciaires. Il y a déjà eu beaucoup de procès. La plupart des acteurs sont condamnés ou en cavale après avoir été condamnés. Avec une petite nuance, c'est qu'on n'a rien retrouvé de l'argent. Et puis, il y a en effet le sang. On a fait parler la poudre dans ce dossier et ça n'arrête pas. Les premiers meurtres ont débuté dès la fin de l'escroquerie à la taxe carbone en 2009. Et il y a encore un an et demi, un homme se faisait tirer dessus dans la tête et le ventre. Heureusement, c'est un miraculé, il n'est pas mort, dans le 16e arrondissement de Paris. Et les enquêtes judiciaires, là, sont totalement ouvertes. Elles sont pour la plupart à Paris, mais certaines à Nanterre. Et il n'y a pas eu une seule mise en examen dans ces affaires d'assassinat qui relève ni plus ni moins que d'un film scorsésien. Comme dans Les Affranchis, nous avons l'argent et puis ensuite il y a le sang. Et bien là, c'est Scorsese à Paris, sauf que il n'y a pas un gramme de fiction dans tout cela.
Fabrice Arfi, donc joué au téléphone par Florence Turme, et dont le livre D'argent et de sang sort jeudi aux éditions du Seuil. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, tentera ce soir de tirer les leçons de la crise du Lévothyrox. Vous savez, ce médicament indispensable aux malades de la thyroïde et dont la formule a changé en mars 2017. Pendant 6 mois, une mission sur l'amélioration de l'information sur le médicament a travaillé. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Cette mission remet donc son rapport à Agnès Buzyn cet après-midi. Elle a tenté clairement de cerner les erreurs commises depuis ce changement de formule.
Oui, sur les 3 millions de patients qui prenaient du Lévothyrox, un demi-million s'en est détourné en un an, ne supportant pas les effets secondaires de la nouvelle formule. Dès les premières semaines, des pétitions fleurissent pour dénoncer la souffrance infligée aux malades par un médicament qui, d'après son fabricant, était resté quasiment identique au précédent. C'est justement là l'une des erreurs pointées par la mission qui rend son rapport aujourd'hui. Malgré le cri d'alarme des patients souffrant de la thyroïde, les autorités ont minimisé longtemps la crise et sous-évalué le ressenti des malades. La mission installée en décembre est coprésidée par Magali Léo, une juriste responsable du plaidoyer de l'association de malades Rénalou, et par l'urgentiste Gérard Kirzek, par ailleurs chroniqueur dans plusieurs médias. Ils ont planché avec un sociologue, une pharmacienne, notamment, et des auditrices au Conseil d'État pour rendre leurs 96 pages. La ministre a déjà annoncé qu'elle s'engageait à rendre l'information sur les médicaments désormais plus claire et plus réactive, reste à savoir comment. Elle propose de créer une source unique d'information via Internet qui regrouperait santé.fr, un portail créé par une loi en 2016 qui n'est pas très connue, et médicaments.gouv.fr qui lui est pour l'instant une sous-rubrique d'un des 12 onglets qu'on trouve à la une du site internet du ministère de la Santé. Alors autant dire que consulter ces sources n'est pas pour l'instant le premier réflexe des malades. En cas de crise, rendre tout ce système plus transparent paraît donc être une urgence.
Merci Tara Schlegel.
Midi presque 50 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Il comptait parmi les musées les plus anciens et les plus prestigieux du pays, un joyau de la culture brésilienne. Hier soir, un gigantesque incendie a ravagé le musée national de Rio de Janeiro sans qu'aucune victime n'ait été signalée. L'origine du sinistre demeure toujours inconnue ce matin. Et puis, rapidement, la tristesse s'est également mêlée à l'indignation à la fois des chercheurs, des professeurs et des étudiants qui dénoncent pêle-mêle le manque de moyens pour soutenir le musée et les réductions de dépenses ordonnées par le gouvernement. L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner, aujourd'hui sénatrice et principale figure de l'opposition, est attendue ce matin devant le bureau du juge pour la deuxième fois en 3 semaines. Le magistrat la soupçonne d'avoir été la responsable d'un gigantesque système de corruption institutionnalisé. Puis c'est également aujourd'hui que le gouvernement argentin doit annoncer un plan d'austérité douloureux pour remédier au déséquilibre budgétaire chronique à l'origine de la crise monétaire. Marie Vienno, bonjour.
Bonjour.
La monnaie nationale, le peso, a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année.
Et oui, le peso argentin n'inspire plus confiance, pas seulement aux investisseurs étrangers, mais aussi aux Argentins eux-mêmes, qui, voyant la valeur de leur monnaie fondre, achètent des dollars, ce qui accélère encore la spirale baissière. La semaine dernière, la Banque centrale argentine a fait passer son taux directeur de 45 à 60%, ce qui est un record mondial. Dans la zone euro, par exemple, on est à zéro. Et pourtant, personne ne veut du peso argentin. Alors pourquoi tant de défiance ? La première raison est psychologique. Chacun se souvient qu'en 2001, l'Argentine a connu la plus grande financière de son histoire et se demande si ce n'est pas reparti. Certains économistes argentins qualifient pourtant la secousse actuelle de tempête dans un verre d'eau. Car si on regarde les chiffres, l'Argentine n'est pas au bord du défaut de paiement. Le FMI lui a versé 15 milliards de dollars en juin et l'Argentine doit emprunter 19 milliards de dollars sur les marchés pour finir l'année, selon le Financial Times. 19 milliards quand on a un PIB de 545 milliards. En temps normal, c'est faisable. Mais pas quand la panique gagne les investisseurs. Et ce qui a contribué dernièrement à cette panique, c'est une erreur de communication du président Mauricio Macri, qui la semaine dernière a demandé au FMI d'avancer ses paiements. Lui pensait rassurer les marchés, mais cela a eu exactement l'effet inverse. Ce qui alimente aussi la défiance de fond, c'est l'incapacité de sa présidence à maîtriser l'inflation qui dépasse les 20% chaque année depuis 10 ans. Et c'est encore aggravé l'an passé, car pour réduire le déficit de l'État, le président Macri a réduit les subventions à l'énergie, mais du coup, les prix de l'eau, gaz, électricité ont bondi de 40%. L'équation semble donc insoluble. Voilà pourquoi la confiance est et sera difficile à rétablir.
Merci Marie Vienno. En Allemagne, la ville de Chemnitz, épicentre de la contestation anti-migrants, reste depuis plus d'une semaine maintenant sous tension permanente. Samedi soir, 18 personnes ont été blessées en marge des rassemblements dans la ville de Saxe. Des échauffourées qui illustrent les difficultés persistantes d'Angela Merkel sur la question migratoire. Puis c'est également dans ce contexte que la justice allemande a rendu ce matin un verdict très attendu contre un demandeur d'asile afghan accusé d'avoir tué une adolescente de 15 ans. Ludovic Piétenu, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct de Berlin. Ce procès, l'extrême droite s'en était notamment saisie pour faire campagne contre les étrangers.
Bien oui, de la même façon que Chemnitz à l'Est fait depuis une semaine la une de l'actualité allemande et au-delà. Il y a 8 mois, les regards étaient tournés sur Kandel à l'ouest à 10 km seulement de la frontière française. Un bourg coquet, 8500 habitants, dont le verdict de ce matin vient rappeler l'existence en dehors des frontières du pays, car ici, le meurtre de cette adolescente 2 jours après Noël a profondément marqué l'opinion. Il y avait eu plusieurs marches d'ampleur, toutes conduites comme depuis 8 jours en Saxe par l'AFD, le parti d'extrême droite alternatif pour l'Allemagne. On y avait vu aussi quelques néo-nazis. L'AFD est un mouvement très en pointe sur les réseaux sociaux qui l'utilise pour faire venir opportunément à tel ou tel endroit ses militants, ses sympathisants des 16 régions du pays au rythme des faits divers, une sorte de tour d'Allemagne de l'indignation. Évidemment, des faits divers à chaque fois où ne sont concernés uniquement que des étrangers de façon supposée ou avérée à l'origine du crime ou de l'agression. Ce parti s'offre ainsi des tribunes contre la politique migratoire de la chancelière Merkel. Des tribunes qu'ils entretiennent, la preuve, avant-hier, cette ville paisible ouest-allemande de Kandel vivait une énième marche, en souvenir de l'adolescente bien sûr, mais pas seulement. Sur les pancartes on pouvait lire « Kandel accueille Chemnitz, la résistance est partout ». Cette mobilisation depuis des mois du camp de la droite dure a fait réagir hier le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas, pour qui les Allemands doivent sortir de leur confort pour défendre les valeurs démocratiques. Il nous faut quitter, dit-il, nos divans et prendre la parole.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Bruxelles. C'est un verdict qui ne manquera pas d'entacher un peu plus encore l'image du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi à l'issue du procès que beaucoup entrevoyaient comme un test des progrès de la Birmanie vers la démocratie. Deux reporters de l'agence Reuters accusés d'atteinte au secret d'État ont été condamnés aujourd'hui à 7 ans de prison. Je vous propose d'écouter Daniel Bastard, responsable Asie-Pacifique à Reporters sans frontières, joint au téléphone par Nabila Hamel.
Nous déplorons profondément ce verdict de 7 ans de prison pour deux journalistes qui essayaient simplement de faire leur travail, d'enquêter sur ce que l'ONU appelle aujourd'hui des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Qu'est-ce qu'il faut voir derrière ce verdict inique ? C'est la fin de la transition démocratique en Birmanie. Si la chef du gouvernement n'est pas capable de défendre la liberté de la presse, où va la démocratie birmane ?
Vous parliez de l'ONU qui avait la semaine dernière qualifié de génocide le massacre de Rohingyas en Birmanie, tout en déplorant qu'Aung San Suu Kyi n'ait pas utilisé son autorité morale sur cette question. Alors que pourrait-elle faire de concret aujourd'hui pour la libération des deux journalistes de Reuters ?
Alors la première chose à faire, nous pensons, pour Aung San Suu Kyi, c'est d'abord de se prononcer en faveur des deux journalistes. Elle ne l'a pas fait depuis le début. Depuis le début, elle nie tout ce qui s'est passé dans l'état de l'Arakan. Lorsque des diplomates l'ont interpellée sur la situation des deux journalistes, et ça c'était en février 2018, elle est rentrée dans une colère noire et a congédié les diplomates. Clairement, pour une figure de prix Nobel, l'autorité morale dont parle l'ONU, on la cherche un petit peu.
Voilà, Daniel Vastar, responsable Asie-Pacifique à Reporters sans frontières. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Nuageux du nord-est au nord, ensoleillé au sud. Les températures cet après-midi, elles seront comprises entre 20 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Prochain rendez-vous avec la rédaction à 18h et Aurélie Kiefer.